Bon, c'est Marceau. Son nom, elle, c'est Pascal CV. On a un stagiaire. On l'appelle l'homme aux trois couilles.
Ben ça, c'est le surnom que tu as donné.
Non, mais j'aime quand même ce surnom. Non,
l'homme aux trois couilles.
Oui. Ils ont embauché... en fait, ils ont un stagiaire avec une voix plus grave que la majorité des animateurs de radio de la station, sauf Dan Caron.
Oui, on va y laisser quand même. Ouais, là. Ouais. Mais on pourrait demander aux auditeurs 88-971-1021 quel autre surnom que l'homme aux trois couilles on pourrait donner à Mathias.
Non, c'est ça. On peut changer de surnom.
Ils sont bons.
Hey, c'est moins 4 degrés sur Québec. C'est plein soleil. On est bien à l'extérieur, maximum de plus 1. Si vous êtes au grand vent, bon, c'est une température ressentie actuelle de moins 8 degrés. Ce soir, cette nuit, ciel dégagé, minimum de moins 7 degrés. Demain, jeudi, ce sera ensoleillé avec un maximum de plus 5. Et vendredi, 11 avril, ce sera nuageux avec un maximum de 8 degrés. Si vous avez des choses à nous dire, se passe quoi que ce soit sur la route ou encore vous avez des commentaires, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, contribuables avec un S.ca. Salut!
Hey, bon midi tout le monde!
On est content de jaser à ce qu'on me dit, t'es dans le jus ces temps-ci?
Ben oui, c'est la fameuse période de l'année où je me promène d'un budget à un autre ou d'une capitale nationale à une autre. Et là, ben ça a l'air que j'étais à Ottawa pour la semaine, pas pour un autre budget, malheureusement. Là, c'est quoi que je suis peut-être une des rares personnes qui apprécie des budgets. Mais là, cette fois-ci, c'est pour assister à l'événement Canada Strong and Free qui a lieu à Ottawa pour les 3-4 prochains jours. Donc, c'est un événement style conférence où est-ce qu'il y a plusieurs organisations à travers le Canada qui se réunissent pour parler de liberté économique, de différents enjeux qui touchent effectivement la politique canadienne. Il y a plusieurs autres organisations que vous connaissez aussi, là, dont l'Institut économique de Montréal qui est présente. Donc, c'est une belle conférence, puis je suis là pour représenter la fédération du même coup, puis continuer à faire ma job en même temps.
C'est-tu principalement des gens de la droite économique ou il y a des panels sur lesquels tu as des gens qui sont un peu plus à gauche?
C'est un peu de tout, en fait. C'est sûr et certain que je vous mentirais pas qu'il y a pas de, communistes ici, là, mais de l'autre côté, il y a quand même des organisations de la société civile qui n'ont rien à voir avec, mettons, les questions de droite ou de gauche et qui sont plus là pour parler, par exemple, des d'innovation technologique. Mm-hmm. Il y a aussi des différents médias indépendants. Il y a aussi, je dirais même, il y a des organisations style, ben, en fait, même Meta est là. Il envoie des représentants pour un peu expliquer comment est-ce que des différents outils technologiques peuvent être utilisés dans le cadre de différents campagnes.
Est-ce que tu sentais que c'était biaisé, ça? T'sais, c'est quand même super intéressant ce dont tu nous parles en ce moment. T'sais, en plus, l'entrée en vigueur des tarifs réciproques pour les 60 pays, ben, c'est fait. Sur les marchés boursiers, il y a eu des répercussions dans les derniers jours. Mais le genre d'influence d'une compagnie comme Meta sur tout ce qui se passe puis comment c'est fait, leur message est assurément contrôlé, là.
Ben oui, c'est sûr qu'il y a quand même une partie du message qui est contrôlé. Veux pas dans le cas de Meta et des autres médias sociaux qui sont là. Je crois que X aussi va avoir un représentant dans une certaine mesure. Ces plateformes-là ont une certaine responsabilité, mais ici, elles sont vraiment ici pour jouer une sorte de rôle neutre et donner un peu, des conseils sur comment est-ce que les différents nouveaux outils technologiques peuvent être utilisés pour que les organisations à but non lucratif puissent mieux rejoindre les bases et construire leur mouvement comme tel. Donc, ils sont peut-être pas vraiment ici pour parler des tarifs comme tels, mais il n'en reste que c'est sûr qu'ils ont une responsabilité là-dedans, puis j'ai hâte de voir ça va être quoi leurs interventions si le sujet vient. Puis effectivement, c'est une conférence sur plusieurs jours avec plusieurs panélistes, puis c'est clair qu'on va beaucoup parler des tarifs dans les prochains jours. Là.
Sinon, Mark Carney a décidé d'acheter Radio-Canada, donc on va donner un 150 millions de dollars de plus à Radio-Canada en pleine campagne électorale. Si c'est pas de l'opportunisme, ça, c'est quoi?
C'est très problématique au mieux. Là. Donc, je veux dire, il y a deux gros problèmes avec le fameux 150 millions que Mark Carney veut ajouter au budget de Radio-Canada. Ça a été, il l'a annoncé, je pense, pas mal la semaine dernière. Et essentiellement, il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est qu'on promet de l'argent à un média en pleine campagne électorale. Je pense qu'il faudrait au minimum se garder une petite gêne. Mais il y a aussi le fait que, d'un autre côté, vous avez quand même un candidat conservateur, le Pierre Poilievre, qui lui parle plutôt de couper le financement à Radio-Canada. Donc, j'ai très hâte de voir respectueusement comment est-ce que la couverture de Radio-Can va être neutre dans les circonstances quand d'un côté, on a quelqu'un qui nous promet des nananes supplémentaires puis de l'autre qui promet de nous couper. Donc, j'ai hâte de voir comment les journalistes vont traiter ça. Mais le deuxième problème, c'est qu'on s'en va garocher 150 millions de dollars de plus alors qu'on fait fi de tous les scandales de dépenses qui ont lieu au sein de Radio-Canada au cours des dernières années et qui méritent d'être adressés. Entre autres, la culture des bonus. Là. Je tiens à rappeler que depuis 2015, on s'y est versé 132 millions de dollars en bonus chez Radio-Can. Réseau-Canada. On s'est versé au-dessus de 98 millions de dollars en augmentation de salaire. On a triplé le nombre de personnes qui font des salaires dans les six chiffres. Et pourtant, on a des cotes qui sont vraiment là en fond de cale. Quand on regarde dans le monde anglophone, c'est rarement plus haut que 5 % des parts là, de marché. Juste pour donner une idée, en prime time, vous avez CTV qui va chercher dans le monde anglophone pas loin de 10 à 15 % des cotes d'écoute.
Ouais.
Et vous avez Radio-Canada ou CBC qui va chercher à atteindre 5 %. Donc, on est loin. Puis pourtant, Radio-Canada, il faut le rappeler, ils ont un budget d'à peu près 1,4 milliard. Et malgré tout, ils disent qu'ils n'en ont pas assez. Et là, il y a Carney qui va en rajouter. Et donc, c'est une surenchère qui est très mauvaise parce que effectivement, j'ai hâte de voir comment le média va couvrir ça de manière neutre, mais le gouvernement, ou du moins que soit l'actuel ou le prochain, mériterait au minimum de se pencher sur les scandales de dépenses des dernières années et de faire le ménage une fois pour toutes. Non?
Mais c'est de l'opportunisme crasse. Puis, je veux dire, les Radio-Canada vont probablement aimer beaucoup ce 150 millions de dollars-là. En plus, ils n'aiment pas nécessairement Pierre Poilievre, mais moi, je l'ai vu. Là, à partir du moment où Mark Carney a refusé de participer au débat de TVA, là, TVA-LCN, et refusé de donner le fameux 75 000 $ après quelques heures, il y avait déjà des papiers qui s'inscrivaient, qui étaient négatifs à l'égard de Mark Carney. Donc, tu sais, c'est un peu les médias qui devraient pas jouer ce rôle-là, mais qui se vengent un peu sur les candidats qui n'aiment pas ou qui n'apprécient pas nécessairement. Ça devrait pas avoir sa place.
C'est un discours que toi, t'as depuis toujours, ou t'as vu un changement là-dedans ou pour passer ce commentaire-là? Puis assurément que... Une affaire que tu n'as pas évoquée, Nicolas, que Yannick, toi et moi, on parle depuis plusieurs mois, c'est le budget nécessaire chez un média public. Très, très important d'avoir une neutralité journalistique au lieu de l'opinion. Par contre, il faut assurer une garde. Il faut être un chien de garde sur l'argent qu'on injecte dans ce média-là. Puis on a parlé souvent de manque de coupure peut-être à l'interne ou encore de faire comme au RTC, ici à Québec, ou du moins de ce qu'on aimerait, c'est d'aller... ajouter un peu de chair autour de l'os avec déjà les fonds qu'on a. Et ça, ils n'en ont pas parlé non plus là, sur la révision des finances avant de donner un budget.
Non, effectivement. Puis dans le cas du parti, bien, en fait, plutôt du gouvernement libéral, en fait, la ministre Saint-Onge récemment avait l'intention de déposer un projet de loi où est-ce qu'il parlait de doubler le financement de Radio-Canada puis de faire en sorte que la société d'État soit plus soumise à une forme d'évaluation budgétaire comme c'est le cas à chaque année. Parce qu'à
ça,
chaque année,
veut pas,
le financement de Radio-Can est pas mal dépendant de ce qui est annoncé dans le budget. Mais là, ils veulent le protéger encore plus puis rendre encore plus opaque le financement de l'organisation, ce qui fait aucun sens. Que ce soit une société d'État comme Radio-Can Canada, qui a quand même un rôle culturel et d'information, ou que ce soit n'importe quelle autre société d'État canadienne, qui est financée par les contribuables, le minimum, c'est qu'on soit en mesure de leur donner des comptes à ces contribuables-là, et que quand, justement, il y a des gens qui sonnent l'alarme, comme nous à la Fédération, ben, qu'on prenne au minimum le temps de nous écouter, ou aussi d'amener des solutions qui font en sorte que les gens ne vont pas perdre confiance en leurs médias. Mais il y a quand même aussi une raison pour laquelle Radio-Canada et CBC, surtout dans le monde anglophone, avoir des très mauvaises stats d'écoute. Et ça vient autant de la question de la popularité des autres médias ou de la grande diversité médiatique dans le monde anglophone, mais ça vient aussi d'une perte de confiance. Puis le gouvernement, au lieu d'écouter cette perte de confiance-là, préfère parler d'augmenter, voire même doubler les budgets. Juste pour donner une idée, le financement de Radio-Canada présentement, quand on compare aux pays du G7, on parle d'environ, c'est 33 $ par habitant, qui est environ versé là, par les Canadiens pour avoir une société d'État comme Radio-Can. Mais dans le reste du monde occidental, on parle d'environ 60 $ par personne. Donc, c'est le financement que le gouvernement canadien espère obtenir, ou du moins débloquer pour Radio-Canada à long terme, et ça, sans s'adresser aux problèmes de fond. Fait qu'à la fin, c'est normal que les contribuables perdent un peu confiance tant leurs médias que tant les politiciens qui utilisent leur argent dans toutes les directions, sauf dans la bonne.
Oui, souviens-toi de la ministre qui voulait l'interdiction des publicités payées par des entreprises privées pendant les bulletins de nouvelles. Je veux dire, c'était de l'argent de plus qui arrivait pour Radio-Canada, puis la ministre a dit non, ça serait important d'enlever ça, parce que pour conserver la neutralité journalistique, je ne pense pas que c'est ça qui empêche Anne-Marie Dussault de ne pas être neutre tout le temps.
Ben non, puis on s'entend que le financement de Radio-Can, il vient en très grande partie des contribuables. Il y a 1,4 milliard, mais il y a quand même pas loin de 400 millions qui viennent des publicités. Donc, si on dit qu'on va se priver de ce financement-là, c'est qu'on va en demander davantage aux contribuables.
Exact.
C'est pas la bonne approche. Puis effectivement, je pense pas qu'Anne-Marie Dussault ou que quiconque qui travaille dans le bureau de Radio-Can sont influencés par les bandes annonces, puis ou les publicités, pardon. Et de l'autre côté, je pense pas non plus que l'auditoire soit dérangé à ce point-là. C'est sûr qu'on, moi, je me souviens quand même de l'événement des Jeux Olympiques de Paris où est-ce que pendant la présentation, il y avait des publicités puis il y avait du commentariat qui se faisait alors que le show se déroulait. Non, mais ça, c'est un problème qui n'a rien à voir avec le financement comme tel. Donc,
mais moi, je serais contre. Je serais vraiment contre qu'on ait de la publicité privée dans un média public, honnêtement. Il y a toujours quelque chose en arrière de ça. Puis tu le vois, tu le sens quand tu travailles au privé. Pas que ça nous influence, mais nos partenaires, il y en a qu'on aime foncièrement puis qu'on est content qu'ils nous appuient. C'est une chose qui ne devrait pas être diluée dans un média public. Et le même exercice, autant en publicité, doit être fait au moment où on reçoit des sommes, en fait, pour être financé. Moi, je trouve que c'est un chien de garde de l'actualité qui est essentiel. Après, comment on s'en sert? Ça, je suis totalement ouverte pour qu'on s'assoie et qu'on en jase.
Sinon, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, les tarifs sur le merveilleux monde de l'automobile, ça rentre en vigueur aujourd'hui. On parle de 25 %. Déjà, hier, il y avait des articles qui se faisaient sur des individus qui se dépêchaient d'aller acheter leur véhicule neuf parce qu'ils avaient peur de l'augmentation. Donc, c'est une grosse nouvelle aujourd'hui pour le monde automobile.
Oui, puis c'est pas une bonne. Entendons-nous, là, je veux dire, l'annonce qui a été faite aujourd'hui, c'est aussi une réponse au fameux tarif que Trump avait déjà déroulé le 2 avril dernier. Puis c'est aussi par rapport aux autres tarifs qu'il a déroulé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Mais oui, je pense que c'est pas une bonne nouvelle. Par contre, faut faire attention, puis peut-être pas la prendre avec un grain de sel, mais il faut faire la différence entre qu'est-ce qui va être appliqué et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que les voitures qui vont être essentiellement touchées par les tarifs, c'est des voitures qui sont pas fabriquées à 75 % en Amérique du Nord. Parce que les voitures qui sont fabriquées à 75 % en Amérique du Nord sont couvertes par l'acte d'Amérique du Nord, ben, pardon, par NAFTA, ou plutôt par l'ALENA, puis ensuite par l'ACEUM. Donc, si la voiture que vous espérez acheter a été fabriquée à 75 %, que ce soit, par exemple, une Mustang ou la plupart des véhicules Ford, généralement, ils vont être épargnés. Ceci étant dit, il y a plusieurs véhicules que vous pouvez acheter chez Ford et autres qui sont des voitures américaines et qu'il y a quand même assez de pièces dessus qui ne sont pas fabriquées en Amérique du Nord. Il y a entre autres là, la Ford Escort et ce genre de véhicules-là qui, vu qu'il y a certaines pièces ou certaines parties du véhicule qui sont faites en Thaïlande, automatiquement ne sont plus, le véhicule n'est plus protégé par l'ALENA et donc peut être visé par les tarifs. Donc, c'est vraiment le type de véhicule qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Ceci étant dit, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça va faire augmenter les prix. On habitait déjà que les tarifs américains risquaient de faire augmenter d'environ 2 à 3 000 $ la valeur de ces voitures-là sur le marché, ne serait-ce à cause de cette pénalité-là. Mais si on ajoute des contre-tarifs, ben, ça double encore. Donc, dans certains cas, on peut parler d'une augmentation de prix qui peut aller jusqu'à 6 à 7 000 $ supplémentaires pour un véhicule seulement parce qu'on a des politiciens qui se lancent dans une surenchère de tarifs. Ouais. Donc, quand on disait que les consommateurs, les contribuables sont les premiers perdants, ben, ça en est un excellent exemple et malheureusement, ben, on se lance dans cette surenchère-là. Je trouve ça très désolant de voir que le Canada fait partie des rares pays qui s'embarquent dans cette surenchère de tarifs et de contre-tarifs, quand la plupart des autres pays sont en mode négociation. Mais il faut rappeler que nous, on était aussi en mode élection. Donc, ça rend le contexte encore plus complexe pour les Canadiens. Donc, il va falloir attendre la fin des élections pour voir si ces tarifs-là vont finir par être abolis à travers des négociations.
Nick, si t'étais conseiller pour la coalition Avenir Québec, ce que je te souhaite pas parce qu'on serait plus amis jamais, mais si t'étais conseiller pour eux, est-ce que tu mentionnerais à François Legault que ce serait peut-être le temps de mettre fin à l'interdiction des voitures à essence pour 2035?
Ben autant à François Legault qu'au gouvernement fédéral, faut pas oublier que cette interdiction-là, elle est applicable dans les deux sens, c'est-à-dire que le Québec l'applique et le fédéral a aussi sa propre réglementation qui va s'appliquer à toutes les provinces. Et dans l'optique actuelle, on sait de un que l'industrie des voitures électriques, ça va pas très bien en ce moment. On sait en plus qu'avec la guerre tarifaire avec le monde automobile, les prix vont sûrement augmenter. Et là, ben on continue quand même de mettre la pression sur les concessionnaires et les fabricants automobiles pour qu'ils fassent le virage vers l'électrique. Et on met de la pression aussi sur les consommateurs, puis on leur dit d'acheter électrique quand même si les prix risquent d'être encore plus élevés à l'avenir. Donc, c'est clairement pas le bon moment pour se lancer dans ce type de projet-là. Donc, pour l'instant, on espère de faire pression sur le gouvernement fédéral en premier lieu, puisqu'on est quand même en élection fédérale présentement, pour s'assurer que ce soit Carney ou le prochain gouvernement, si c'est les conservateurs, qui mettent fin à cette réglementation complètement ridicule. Faut le dire, d'ici 2035, ils espèrent qu'aucune nouvelle voiture à essence et au diesel ni même les hybrides conventionnels, c'est seulement les hybrides rechargeables qui pourront être vendus à partir de 2035. Donc, c'est très limitatif, ça va affecter les familles, ça va affecter les industries, et en ce moment, c'est pas le bon contexte là, pour se lancer dans ce type de projet qui était déjà beaucoup trop ambitieux pour les moyens qu'on a. Donc, on va espérer que la CAQ recule là-dessus, pas juste là-dessus, on a la taxe carbone tant qu'à hier qu'on va marteler jusqu'à la fin, mais il y a plusieurs autres politiques comme ça que le Québec peut plus se permettre de poursuivre, encore moins dans le contexte actuel.
Hier, l'essence à Gatineau tu es autour de 1,40$, puis si tu traversais le pont, l'autre bord, était 1,08$, 1,09$.
Je confirme, je suis à Ottawa présentement, puis je vais faire le plein avant de revenir au Québec.
Est-ce que tu vois que c'était plein dans les stations d'essence? Est-ce qu'il y avait des consommateurs, mettons, québécois de Québec qui traversaient?
Je confirme que j'ai vu beaucoup de voitures avec des plaques d'immatriculation du Québec du côté de Ottawa. Et le pire, c'est que quand la taxe carbone a été abolie, ou du moins la veille de l'abolition de la taxe carbone, il y a des journalistes de TVA Ottawa qui me demandaient justement si ce phénomène-là est observé. Et j'ai fait le guess que oui, il y a des bonnes chances que ce soit observable, mais je pensais pas que ce serait aussi rapide, parce que vraiment, du jour au lendemain, j'ai des amis qui travaillent au centre-ville d'Ottawa et qui me confirmaient qu'il y avait plus de voitures québécoises que d'habitude dans les stations de service. Donc, c'est pas un phénomène qui est tiré par les cheveux, c'est vraiment quelque chose de réel. Puis cette disparité-là va disparaître le jour où le Québec va se débarrasser de sa taxe carbone, c'est pas mal évident.
Tu nous diras ça t'a coûté combien à fin de ton plein tantôt, Nicolas, avec peut-être le nombre de litres que tu rentres dans ta voiture?
Parfait. Ben, je vais vous envoyer la facture quand ça va être fait. Là, je repars vendredi. Donc, je risque de faire le plein vendredi, puis je vais vous envoyer ça par Messenger.
Oui, mais imagine-toi, ici au Québec, là, c'est quoi? C'est autour de 1,50$, là, si les auditeurs peuvent me le signaler. 418-971-1021, 418-971-1021, autour de 1,50$. Puis tu traverses l'autre bord du pont. T'es rendu à Ottawa. Puis là, il est rendu à 1,08$, 1,09$. C'est parce qu'il y a 30 cents. 40 cents de différence, Pascal.
Fois combien de litres sur ta voiture, c'est ça.
Ça fait une grosse différence.
Plus, accumule tes semaines, tes mois.
Tu sauves 20, 30, 35 piastres, ça vaut vraiment la peine. 1,58$, Alex vient de me répondre. C'est 1,58$ à Québec. C'est fou raide, la différence, c'est majeur.
Ben, dites-vous qu'il y a juste une différence de 10 cents pour un plein, c'est environ 8$ à la fin que ça donne comme résultat. Mmh. Donc, imaginez quand on parle d'une différence d'environ 40 cents, ça joue beaucoup sur le portefeuille.
Je te souhaite du beau nightlife à Ottawa, mon ami. J'espère que t'en profites. Là. C'est une belle ville pour marcher, Ottawa.
Oui, ben tu m'as dit nightlife, là. Écoute, tu me fais sourire parce que c'est la ville qui s'endort à 7h le soir, là. Fait que j'ai hâte de voir.
Oui, mais là, t'es brûlé, Nicolas.
C'est pour
là.
Ça que je te dis que c'est une belle ville pour marcher.
Oui, je vais en profiter.
Salut, merci.
Salut.
Ça fait plaisir, à bientôt.
Bye, l'excellent Nicolas Gagnon, à qui on a le plaisir de jaser chaque semaine. Il est de la Fédération canadienne des contribuables. C'est un gars qui surveille où va votre argent et comment on s'occupe de votre argent au gouvernement et où est-ce qu'on l'envoie. Si vous voulez en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca. Midi 53.
On parlait à Éric Duhem hier, justement, sur sa nouvelle campagne. C'est quoi, donc? Prends ton gaz égal.
Prends ton gaz égal.
C'est le slogan. Puis... il y a le cynisme qui a embarqué aussi sur cette taxe carbone-là, à savoir ça s'en va où. Je pense que si ça avait été fait d'une autre manière, puis peut-être coupé à des moments difficiles pour l'économie, il y aurait plus de gens qui auraient été intéressés, mais ils ont même perdu les fervents des fois de l'écologie, puis des fonds verts, puis de l'investissement, par la connaissance actuelle de ce qu'on fait finalement au gouvernement avec ça.
La semaine passée, dans le Pit Stop avec Denis, je vous parlais d'un journaliste qui est dans le secteur de Gatineau. C'est un journal local de Gatineau. Et le journaliste, un éditorialiste aussi, lui mentionnait qu'il n'allait pas traverser le pont l'autre côté pour sauver des dizaines et des dizaines de dollars à chaque fois qu'il fait son plein. C'est son choix, Pascal.
Tu y crois pas?
Je pense qu'il l'a écrit. Mais quand il va jaser avec sa blonde va dire « Attends un peu, là, c'est parce qu'à chaque fois qu'on fait le plein, on sauve 80$ l'autre bord. » D'après moi, il va faire ce que tout le monde va faire, c'est-à-dire d'essayer de sauver un peu de taxes en allant de l'autre côté. Là. J'en suis persuadé. Là. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Puis je dirais pas le contraire à radio. Je dirais, vous voulez sauver de l'argent, faites 10 minutes de char, allez tanker l'autre bord, puis revenez après. Ben oui, midi 54. On revient. Boulevard 102.1.